Aujourd'hui, on reçoit Dr Adama Diigo, chercheur dans le domaine de l'histoire et de la sociologie de l'histoire, auteur du livre « Histoire des politiques de patrimoine culturel au Sénégal, 1816-2000 », extrait de votre thèse de doctorat. Bonjour Adama.
Bonjour Abdelkhad.
Peut-on être fier de nos politiques mises en place dans ce sens?
Si on analyse les politiques du patrimoine culturel depuis l'installation des Français, depuis la colonisation définitive au Sénégal et jusqu'à l'an 2000, parce que je me suis arrêté à l'an 2000 pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour analyser les politiques culturelles patrimoniales au Sénégal. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien par les colonisateurs français et par les gouvernements post-coloniaux. Mais encore, il y a quand même des choses qui ne sont pas en phase avec ce que la population ressent.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, les politiques patrimoniales étatiques sont axées sur l'aspect monumental, sur cette notion occidentale de patrimoine et de politique culturelle. Et ces politiques mettent plus en avant la notion de patrimoine telle que la conservation des archives, la conservation des monuments historiques, la constitution d'un patrimoine public, alors que les populations ressentent plus les traditions qu'elles ont héritées directement de leurs ancêtres. En fait, ce qui m'a poussé à faire cette réflexion dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'est que dans mes travaux anciens en maîtrise et en DEA, j'étais dans les îles du Saloum, dans le delta du Saloum. Et dans ce delta du Saloum, il y a ce qu'on appelle les amakoukiers, c'est des sites archéologiques. Et ces amakoukiers étaient en exploitation intensive par une population, notamment les jeunes insulaires, qui exploitaient les coquillages et qui les revendaient en Gambie, à Kaolack, pour avoir un peu une activité lucrative. Et parallèlement, des traditions ont été sauvegardées. Donc, ces populations maintenaient la transmission des traditions telles que les pangols, telles que les traditions d'origine religieuse islamique ou païenne. Je voulais analyser pourquoi cette dualité entre l'appropriation d'un patrimoine qui est directement lié aux traditions ancestrales et la destruction des sites archéologiques. Donc, c'est ce qui m'a amené à analyser l'histoire de la notion de patrimoine culturel. Comment cette notion qui, dans le sens institutionnel et officiel, comment cette notion nous est arrivée au Sénégal et comment l'État colonial l'a introduit au Sénégal et comment les gouvernements Senghor, Abdou Diouf, c'est-à-dire l'État moderne post-colonial, comment cet État s'est réapproprié de la politique culturelle et patrimoniale léguée par le colonisateur. Et donc, c'était pour ça.
Également, vous l'avez noté dans votre livre, le Sénégal regorge d'un riche patrimoine matériel et immatériel. Mais est-ce qu'on est conscient de cela?
En fait, la conservation du patrimoine matériel relève uniquement du domaine de l'État, qui met en valeur les monuments historiques, l'architecture coloniale, les musées. Mais la population ne ressent pas cela. Donc, si vous voyez pourquoi les sites archéologiques sont détruits et pourquoi la population n'a pas cette culture de fréquenter les musées, n'a pas cette culture de conserver quelque chose d'ancien. Aujourd'hui, les villas qui sont classées patrimoine historique national à Dakar, on voit que la plupart des villas sont rénovées et ou bien même complètement rasées.
En ruine chez moi, à Rufisque.
Oui, à Rufisque, à Saint-Louis, ils ont le même problème. Donc, à Gorée aussi, c'est parce que la population n'a pas été sensibilisée depuis le départ, parce qu'on a affaire à une population où le taux d'alphabétisation est relativement faible par rapport aux politiques que l'État veut développer dans le domaine du patrimoine monumental. Donc, il manque ce travail d'éducation et de sensibilisation, bien que des choses ont été faites et sont en train d'être faites. Mais il manque encore toujours ce travail d'éducation et de sensibilisation qui peut capter les populations et les attirer à ce qu'elles soient conscientes que ce patrimoine a autant de valeur que les valeurs qu'elles ont héritées de leurs ancêtres.
Mais en tant qu'experte de la question, quelle proposition pour protéger cet héritage?
Moi, je pense qu'il faut vraiment associer les populations. Ils ont aussi leur mot à dire. Parce que si aujourd'hui, on analyse qu'il y a beaucoup de journées culturelles, communautaires, qui reprennent vraiment en charge l'héritage des ancêtres directs. Et parallèlement, l'autre patrimoine est en ruine. Donc, à mon avis, il faut qu'on approche plus les populations, qu'on les intègre plus, qu'on leur explique plus la valeur, que ce patrimoine a autant de valeur et peut générer aussi d'autres ressources si on conserve cela, mais l'État aussi doit y mettre les moyens. Il manque des moyens et du personnel pour mettre en valeur tout ça. Mais les acteurs de base, ce sont vraiment les populations. Parce que ici, la politique coloniale et post-coloniale a surtout centralisé les choses à Dakar. Et en général, les monuments historiques, la plupart des sites archéologiques se trouvent hors de Dakar. Donc il faut, à mon avis, descendre plus de décentralisation et donner les moyens aussi aux communautés rurales pour qu'elles approchent plus les populations, qu'elles intègrent plus les populations, qu'on éduque depuis. Parce que moi, j'ai fait mon travail de terrain en maîtrise sur les amas coquiers, mais auparavant, je ne connaissais pas les amas coquiers, à part les cours de licence en archéologie qu'on a eu à l'université. Alors que je suis même originaire de cette zone du Saloum. Ce qui veut dire que il y a ce travail qui manque au niveau des écoles, au niveau des populations, pour vraiment sensibiliser les populations sur ce qu'on dispose comme ressources patrimoniales et quelle est la valeur de ces ressources patrimoniales et quelles sont les menaces que génèrent les activités et ou les périls des populations.
Dernière question, vous avez dit qu'on a beaucoup à faire, ouais. Mais est-ce qu'on peut être optimiste encore?
Bien sûr, si on y met les moyens. Et qu'on associe les populations aux politiques patrimoniales, ne pas seulement politiser les choses, je pense bien qu'on peut y arriver. Ça demande bien sûr beaucoup de travail à long terme, mais bon, il faut toujours sensibiliser, éduquer les populations, leur demander aussi ce qu'elles pensent, parce que depuis, les colonisateurs n'avaient pas presque associé les populations aux politiques patrimoniales. Les autorités coloniales ont importer une notion que les Sénégalais ne connaissaient pas et elles n'ont pas associé les populations à ces politiques. Et malheureusement, les gouvernants post-coloniaux ont aussi presque suivi la même ligne directrice que les politiques coloniales.
On recevait Adama Djigo, chercheur dans le domaine de l'histoire et de la sociologie de l'histoire, auteur du livre « Histoire des politiques de patrimoine culturel au Sénégal 1816-2000 », extraite de votre thèse. Merci d'être venu à Vibe Radio.
Merci, Abdourad, de m'avoir accordé cette interview. Je vous remercie.